Merci d'être avec nous sur France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Un titre principalement, la disparition de Valéry Giscard d'Estaing. Hommage des Auvergnats ce matin à Chamalières.
C'est vrai que c'est toujours beaucoup d'émotions. Pour moi, c'était avant tout un être humain, avant d'être un homme politique. Je crois que c'était le ressenti un petit peu de tous les Auvergnats.
Nous allons dans le fief de l'ancien président dans un instant. Emmanuel Macron à la télévision ce soir à 20h. Son septennat a transformé la France, écrit le président à propos de son prédécesseur. Le parallèle Macron-Giscard est-il justifié? Nous verrons cela. Au bilan des années Giscard, un chapitre peu fréquemment évoqué, l'immigration. Ces années ont pourtant marqué un tournant. Giscard et la communication politique, il a aussi utilisé le sport pour cela. Nous irons à Berlin. L'Allemagne perd un ami, dit Angela Merkel. Et puis bonsoir madame, nous entendrons un extrait de l'interview culte quand Pierre Desproges interroge le faux VGE Thierry Leluron. L'invité du journal de 13h est François Bayrou, très ému, vous l'entendrez, entretien enregistré en fin de matinée. Et puis vous, votre Giscard à vous, racontez-nous ce que vous retenez de l'ancien président et de ses années à l'Élysée au 01 45 24 7000, le standard est ouvert. Il y a aussi l'appli France Inter, rubrique Réagir. Pour dialoguer avec vous à 13h30, l'historien Jean-François Sirinelli, la journaliste Sylvie-Pierre Brossolette et notre cher Jean Lebrun. Quant à Frédéric Pommier, c'est une chanson. Il repassera les années Giscard en musique. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Il y a beaucoup de choses dans l'archive que nous allons écouter. Le ton et le style d'une époque, l'intention affichée de casser les codes, se rapprocher des Français, jouer de sa jeunesse, et en même temps, une façon de parler qui ne colle pas tout à fait avec ses intentions. Portrait de Valéry Giscard d'Estaing par son épouse Anémone. Interview diffusée entre les deux tours de la présidentielle 74 à la télévision publique.
Eh bien, il est très détendu. Très agréable à vivre, toujours très, d'un caractère très égal. Il adore la vie de famille et tout au fond son plus grand plaisir c'est d'être avec les enfants et avec moi. Et très...
Est-ce qu'il a des violons dingres?
Oui, il aime écrire et il aime volontiers jouer du piano.
Et de l'accordéon aussi.
Et de l'accordéon aussi, bien sûr.
Comment votre mari a appris à jouer de l'accordéon?
Bon, ça s'est fait de manière un peu accidentelle. C'était quand il était un soldat, en occupation en Autriche. Et il se trouvait qu'il y avait un professeur d'accordéon autrichien qui était au chômage et qui a proposé de donner des leçons aux jeunes militaires français qui étaient là.
Je crois que votre mari aime aussi jouer au football.
Ça ne lui arrive quand même pas très souvent. Mais ça l'a beaucoup amusé, cette partie à Chamalières.
Voilà, Valéry Giscard d'Estaing, le président qui voulait regarder la France au fond des yeux, s'est éteint, victime du Covid, hier à 94 ans, dans sa résidence d'Auton. C'est donc dans le Loir-et-Cher qu'il est mort. Mais la région de France, auquel le nom de Giscard reste attaché, c'est évidemment l'Auvergne. Maire de Chamalières, député du Puy-de-Dôme avant son élection à l'Élysée, à nouveau élu de cette région après. Alors comment les Auvergnats réagissent-ils à la disparition de Valéry Giscard d'Estaing? Reportage Christophe Vincent.
À 100 mètres de la mairie où le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoine va improviser un hommage, le marché, entre les étals de jambon et de Saint-Nectaire, les habitués plutôt âgés évoquent Giscard, l'Auvergnat.
Beaucoup d'émotions. Valéry Giscard d'Estaing, bon, c'était quand même l'image en Auvergne. Je l'ai croisé dans la rue, à faire les vitrines, au même titre que moi d'ailleurs, tout seul. Pour moi, c'était avant tout un être humain.
Je l'ai vu quelques fois, moi, ici. C'était un type sympathique.
Un peu ému parce que c'était quand même ma jeunesse, etc., etc. C'est des souvenirs. C'est comme ça, il avait 94 ans, c'était son heure.
Quatre autoroutes, Vulcania, le Zénith, les Auvergnats citent volontiers ses réalisations, quitte à oublier une forme de désamour ultime. Giscard battu à la région après 18 ans de règne et également au municipal à Clermont-Ferrand.
On avait beaucoup d'affection pour lui à Chamalières. À Chamalières, il était détendu. Il avait dit une fois qu'il s'était amusé davantage en une soirée à Chamalières qu'à l'Élysée pendant 7 ans.
Ça s'est pas très bien fini quand même avec l'Auvergne, comme s'il se sentait un peu rejeté. Vous l'avez ressenti?
Oui,
ça,
on n'a pas voté pour lui. On l'a pas élu. Il aurait été un grand maire à Clermont-Ferrand. Et on lui a dit non, il est parti.
Un divorce consommé quand VGE a vendu son château de Chanona pour acheter celui d'Estaing dans l'Aveyron. J'y ai trouvé des gens souriants, disait-il. À Clermont, on ne sourit pas.
Merci Christophe Vincent. En direct de Chamalières, les obsèques de Valéry Giscard d'Estaing se tiendront dans la plus stricte intimité familiale. Mais ce soir, à 20h, Emmanuel Macron s'adressera aux Français à la télévision. Bonjour Karine Bécard.
Bonjour.
Un peu plus d'un an après l'hommage à Jacques Chirac, le président devra trouver les mots pour parler de Giscard.
Mais vous savez, les deux hommes se connaissaient plutôt bien. Ils se rencontraient pour échanger, pour discuter assez régulièrement. Plusieurs dîners notamment ont été organisés chez les Giscard d'Estaing. Donc Emmanuel Macron n'aura aucun mal ce soir, avec des mots évidemment très différents de ceux qu'il a pu exprimer à Jacques Chirac il y a 14 mois. Il n'aura aucun mal à rendre hommage à ce troisième président de la Ve République qui a été le premier à ne pas être gaulliste. Alors y aura-t-il un autre hommage qui pourrait lui être rendu? On l'a beaucoup dit, Valéry Giscard d'Estaing, qui toute sa vie est resté très blessé, très meurtri dans sa relation avec les Français, ne le souhaitait pas, mais rien n'est encore définitivement acté. Les échanges avec la famille ne sont pas terminés.
Puisque Emmanuel Macron parle ce soir de Valéry Giscard d'Estaing, est-ce que le parallèle qui est fréquemment fait entre les deux a du sens, Karine?
Alors, il est impossible de répondre oui ou non à cette question, mais ce qui est intéressant, c'est le communiqué qui a été publié cette nuit par l'Élysée. Dans le dernier paragraphe, il est écrit que les orientations que Valéry Giscard d'Estaing avait données à la France guident encore nos pas. Alors Emmanuel Macron serait-il le digne héritier de VGE? Incontestablement, il est le président le plus proche politiquement de ce qu'a été le président Giscard d'Estaing, ce qui ne veut pas dire qu'il faut y voir une véritable filiation, mais c'est vrai que les parallèles entre l'un et l'autre sont assez nombreux. Ils sont tous les deux, et ça saute aux yeux, des centristes, réformistes et européens convaincus. L'Europe notamment, l'idéal européen, est un marqueur extrêmement fort pour Emmanuel Macron, comme il l'a été pour Valéry Giscard d'Estaing. Et puis il partage également le dépassement des clivages politiques avec la volonté de rassembler très largement. Mais ne nous y trompons pas, Emmanuel Macron n'est pas VGE, un conservateur progressiste certes, mais à la communication politique bien plus transgressive que celle très monarchique qui a été théorisée par l'actuel président avant son arrivée à l'Élysée. Et puis surtout, et pour finir, Emmanuel Macron, on l'a oublié, vient du centre-gauche, pas de la droite libérale qui était viscéralement celle de Valéry Giscard d'Estaing.
Autre point commun, les deux élus très jeunes, président de la République, Valéry Giscard d'Estaing avait quitté l'Élysée à 55 ans. Il était le dernier président né avant la Seconde Guerre mondiale à laquelle il a participé, le dernier à avoir travaillé avec le général de Gaulle. Il fut aussi, sous la Ve République, celui qui est resté le plus longtemps ancien président depuis presque 40 ans. Il avait repris après l'Élysée une vie d'élu local, de député, de président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée. Puis le dernier grand rôle qu'il occupa fut celui de président de la Convention pour une Constitution européenne, réforme rejetée par les Français lors du référendum de 2005. Bonjour Mathilde Dehimi.
Bonjour Bruno.
Mathilde, avec vous, on s'arrête sur les dernières années, les derniers mois de la vie de Valéry Giscard d'Estaing.
Oui, Valéry Giscard d'Estaing vivait ces dernières années entre son domicile parisien et sa propriété d'Auton dans le Loir-et-Cher. Il participait encore ces dernières années à des cérémonies ou colloques en lien avec les thèmes qui lui étaient chers. Discours en 2018 à l'ambassade d'Allemagne à Paris, remise du premier prix portant son nom l'an dernier, le prix Valéry Giscard d'Estaing, consacrant des étudiants sur les questions européennes. L'ancien président recevait aussi les visiteurs au château d'Estaing dans l'Aveyron. Pour les journées du patrimoine, c'était il y a 2 ans. Une image reste aussi de ces dernières années, les obsèques de Jacques Chirac il y a un peu plus d'un an. Valéry Giscard d'Estaing est en premier rang, debout, saluant ses successeurs. Ces dernières années étaient aussi consacrées à l'écriture, son dernier roman venait de sortir. Pour les 2 confinements, Valéry Giscard d'Estaing avait choisi de s'isoler à Auton, où il s'est éteint, entouré des siens. En septembre, il avait été hospitalisé quelques jours à Paris, légère infection pulmonaire, sans lien avec le Covid, précisait alors l'équipe de Pompidou. Nouvelle alerte, le 16 novembre, il est évacué en hélicoptère à Tours pour une insuffisance cardiaque. À sa sortie il y a 2 semaines, sa famille reconnaissait une très grande fatigue, mais il a, disait-elle alors, une bonne voix.
Alors quel bilan de ces années Giscard? Depuis hier soir, on a beaucoup parlé de Giscard l'Européen, on y revient, le modernisateur de la société, la majorité à 18 ans, la condition des femmes, des pénalisations de l'IVG, divorce par consentement mutuel. Au bilan également, c'est le président qui a jeté les bases du TGV, lancé c'est le projet du musée d'Orsay. Les années Giscard, c'est aussi la fin des 30 Glorieuses, les chocs pétroliers, la montée du chômage. Et puis Maxence Lambrec, il y a un chapitre important et pourtant moins fréquemment abordé lorsqu'on parle des années Giscard, c'est l'immigration.
Et oui, puisqu'on l'a oublié, Giscard, c'est le père du regroupement familial. Via un décret de 76, il autorise les travailleurs immigrés à accueillir en France leur famille. VGE s'inscrit au départ dans une démarche humanitaire.
Alors qu'est-ce que j'ai fait? D'une part, j'ai nommé un secrétaire d'État aux travailleurs immigrés, qui est un homme extrêmement actif et qui a fait une politique pour les travailleurs immigrés. Nous sommes le seul, je crois, gouvernement d'Europe où il y a un membre du gouvernement qui ne s'occupe que d'eux.
En effet, l'idée en soi était juste et généreuse, confiera plus tard VGE. Nous visions le noyau familial tel que nous le connaissons et nous avons vu arriver des noyaux familiaux totalement différents. Un an plus tard, il veut revenir sur son décret. Le Conseil d'État le désavoue, le regroupement familial devient intouchable. Il lance alors l'aide au retour. 10 000 francs si vous montez dans un charter. Ça ne prend pas, les retours forcés non plus. Une fois Mitterrand au pouvoir, son discours se durcit encore. Écoutez le président de l'UDF en 90.
Nous n'acceptons ni la xénophobie, ni la francophobie. La France n'est pas un pays d'immigration et nous devons nous donner les moyens réglementaires et administratifs de gérer un quota zéro d'immigration.
Giscard au front s'amuse alors des militants FN sur une banderole. Contrairement à Chirac, Valéry Giscard d'Estaing ne fut jamais déloyal à l'égard de la droite nationale, écrit aujourd'hui Jean-Marie Le Pen, qu'il a côtoyé au CNI dès 58, ils avaient à peu près le même âge. VGE fut à la fois anti-immigration et pro-européen. Ça paraît impossible aujourd'hui. D'ailleurs, ses héritiers politiques ont vite rangé sa doctrine migratoire au placard.
Pro-européen, c'est d'Allemagne que sont arrivés ce matin les hommages les plus vibrants à l'ancien président français. L'Allemagne perd un ami, dit la chancelière Angela Merkel. Il faut dire, Ludovic Piétenu, que c'est sous Giscard que le couple franco-allemand a été relancé après des années Pompidou un peu fraîches, grâce au duo que Valéry Giscard d'Estaing formait avec le chancelier Helmut Schmidt, Ludovic.
Les deux hommes ont une forme de destinée commune, tous deux propulsés aux plus hautes fonctions après un événement imprévu. Helmut Schmidt devient chancelier d'Allemagne à la faveur d'une crise politique, 3 jours seulement avant l'élection de Giscard en France. Les deux hommes sont de la même génération, leur amitié est née quelques petites années avant quand l'un et l'autre étaient en charge des finances de part et d'autre du Rhin. Ils se voient souvent en privé, ils partagent même leurs soucis personnels, ils se soutiennent moralement, un couple libéral, social-démocrate, comme l'a dit un jour Valéry Giscard d'Estaing, pour résumer le fait qu'ils ne viennent pas du même bord. Ensemble, ils vont faire converger les politiques économiques des deux pays. Giscard va aider l'Allemagne à revenir parmi les grandes ce monde avec sa première participation à un sommet international du jamais vu depuis la guerre. Et avec un tel duo, Schmitt offre à la France plus de poids en Europe. C'est l'époque où Paris et Bonn, aujourd'hui Berlin, ne sont pas juste un couple pour le symbole. Ils entraînent l'Europe avec eux et ce sont des années positives pour la construction européenne. Et pour la première fois, Fleury a juste titre l'expression de moteur franco-allemand.
Dresser le bilan des années Giscard, c'est aussi s'arrêter sur un certain nombre de symboles brandis comme autant de signes de modernisation de la vie politique. Un bleu moins agressif sur le drapeau français, une Marseillaise jouée plus lentement, l'homme qui pose en simple costume, pas en jaquette sur la photo officielle, mais qui est torse nu dans des vestiaires de football. Le foot, entre autres sports, Jérôme Cadet. Giscard fut aussi le premier président à communiquer en utilisant le sport.
Oui, le premier à s'afficher en short, bien avant Nicolas Sarkozy. Juin 1973, VGE, tout en raideur, est en tenue de footballeur sur la pelouse de Chamalières. Les commerçants affrontent les élus municipaux, les journalistes ont été conviés. Hiver 1975, les caméras sont encore là, au pied des pistes de Courchevel, pour voir le président ski au pied. Août 1978, les Français découvrent leur président, raquette en main, à la une de Tennis Magazine. Giscard se veut aussi proche des sportifs. Juin 1975, il remet en personne le trophée de la Coupe de France de football au capitaine des Verts de Saint-Etienne, Jean-Michel Larquet. En juillet, il est sur les Champs-Élysées pour l'arrivée du Tour de France. Arrivée inédite, c'est le journaliste Yves Mourouzi qui lui a soufflé l'idée. VGE félicite le vainqueur français Bernard Thévenet. Son maillot jaune est vierge de tout sponsor à la demande du président. Thévenet qui répond ici à la presse.
Je voudrais surtout remercier tous les gens qui m'ont encouragé sur le bord de la route jusqu'à l'arrivée. Puis leur dire que je suis vraiment très très content d'avoir gagné ce Tour de France et j'ai dédié un peu ma victoire à tous les Français qui m'ont encouragé, applaudi, qui m'ont donné du courage tout au long de la route.
Vous reconnaissez la musique derrière jouée ce jour-là sur les champs, Bruno ?
Oui.
Le chant du départ, ouais. Hymne de la campagne de 74 du candidat Giscard d'Estaing.
Bien joué.
Derrière le sport, la politique n'est jamais loin.
Certaines initiatives, cela dit, de Valéry Giscard d'Estaing ont aussi suscité beaucoup de moqueries sur le thème « Le grand bourgeois qui veut jouer aux Français moyens », s'inviter à dîner chez les Français, partager le petit déjeuner avec les éboueurs. Sa façon de parler aussi a fait le délice des imitateurs. Ici, une vraie fausse interview dans le rôle du président Thierry Leluron, dans celui du journaliste Pierre Desproges.
Bonsoir mon président.
Bonsoir madame. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur. Je suis venu vous présenter tous mes vœux pour 1977.
18.
Ah bon?
Ah oui, oui, oui.
Tout augmente. Mon cher Mourosi.
Excusez-moi, mon caporal-chef, mais je ne m'appelle pas Mourosi, je suis issu d'une vieille famille de coureurs cyclistes. Mon aïeul, Germaine, elle
ne vous demande pas si votre grand-mère fait du vélo.
Voilà pour cette interview passée à la postérité. C'était lors de la soirée du Nouvel An 1978. Mais c'est en 1981 que nous nous arrêtons pour un dernier éclairage avant 13h30. La défaite face à François Mitterrand, 52%, 48% pour Giscard. Le débat lors duquel Mitterrand, dans l'entre-deux-tours, le traite d'homme du passif après avoir été traité lui-même d'homme du passé lors du débat 74. Cette campagne 1981, Valéry Giscard d'Estaing doit composer pendant elle, notamment avec la crise économique et une opposition qui, évidemment, le rend responsable de la montée du chômage. Message de campagne à l'époque.
Françaises, Français, dans cette campagne, j'ai essayé de vous faire apparaître la vérité pour que vous choisissiez en toute connaissance de cause. Cette vérité que mon concurrent supporte si mal, perdant son sang-froid, en venant aux insultes, et justifiant ainsi l'adage « Il n'y a que la vérité qui blesse ».
Alors cette année 1981, c'est de là que nous partons pour un entretien hommage avec François Bayrou. Entretien enregistré en fin de matinée. Bayrou, l'homme qui a incarné le centre en politique après Giscard. En 1981, il est professeur de français à Pau. Souvenir du climat politique à l'époque.
Oh, c'était une campagne épouvantablement difficile. Parce que elle était entièrement envahie par d'abord des affaires terriblement injustes. Giscard s'est jamais vraiment remis de l'affaire des diamants qu'il a toujours trouvé d'une très grande injustice et qui d'ailleurs n'a eu aucune suite évidemment. Mmh. Et comme vous savez, Pau c'est une terre qui est pas vraiment de cette sensibilité ouais. politique là. Et qui est très à gauche et j'étais prof et c'était une campagne extrêmement difficile, extrêmement violente. Ouais. J'ai des souvenirs qui sont, c'est probablement une des plus dures que j'ai vécues et j'ai le souvenir au moment de l'annonce des résultats de quitter notre permanence sous les insultes des gens qui étaient dans la rue.
Alors que reste-t-il de Giscard d'Estaing, François Bayrou?
Bon. Vous voyez bien qu'il y a là un bilan qui est une frustration. Parce que cet homme qui avait des intuitions formidables, qui avait des dons extraordinaires...
Quelles intuitions ?
L'intuition que il n'y aurait d'histoire de la France que si elle épousait son temps et qu'elle s'inscrivait dans l'Europe. En étant pleinement elle-même. Il faut voir que Giscard était profondément attaché à l'histoire de France et même attaché à l'histoire de France sur plusieurs siècles, attaché à y compris à l'Ancien Régime, compris aux grandes pages de la monarchie absolue, y compris il épousait tout ça et il était en même temps certain que seule l'Europe était notre horizon.
Donc des intuitions et une frustration, vous disiez.
Oui, une frustration parce que ça a été un bilan inachevé, parce que il n'a pas pu, il n'a pas su, je ne sais pas ce qu'il faut dire, il n'a pas su incarner sur le long terme la famille de pensée qui était la sienne. Au fond, c'est la même famille que la même famille d'esprit ou de valeur que le président de la République actuel. C'est cette intuition que, au lieu de prendre la politique comme l'affrontement de deux bords, eh ben, fallait dépasser cet affrontement pour rassembler les gens, ce que Giscard appelait gouverner au centre, et ce que Emmanuel Macron prône avec le, en même temps, avec le rassemblement.
Donc le parallèle entre les deux a du sens, de votre point de vue ?
À moi qui ai très bien connu l'un et qui connaît pas mal l'autre, je peux vous dire que oui, beaucoup plus qu'ils ne le pensent eux-mêmes.
Il y a un hiatus dans le rapport de Valéry Giscard d'Estaing aux Français, entre le joueur d'accordéon et le grand bourgeois, entre celui qui voulait dîner avec les Français et le parcours de l'homme d'élite. Est-ce que vous avez une clé de cette contradiction, qui est peut-être une clé du fait qu'il est resté un président, un ex-président impopulaire ?
Impopulaire, je dirais pas ça, mais en tout cas, oui, qu'il n'a pas trouvé la place qu'il aurait aimé trouver dans le cœur des Français. Ça, c'est sûrement très vrai.
Et alors, sur cette contradiction, il y a toujours 40 ans après, le sentiment de se dire, c'était pas totalement sincère, cette volonté de se rapprocher des Français.
Alors moi, je crois que c'était très sincère, mais maladroit. Parce que c'est pas du tout les milieux dans lesquels il avait grandi. C'est des milieux qu'il avait rencontrés une fois dans sa vie, quand il s'est engagé dans l'armée de la Libération. Et là, il a fréquenté des gens. Et c'était une période, j'en ai souvent parlé avec lui, très heureuse pour lui. Parce que là, il était peuple. Il était au contact. Il voulait briser cette paroi de verre qu'il y avait entre lui et les gens, lui et les Français. Mais c'était pas naturel, c'était pas facile. Et ça n'était pas facile en partie parce qu'il avait une prestance extraordinaire. Où qu'il aille, il était président. Et il n'a jamais trouvé la clé de cette facilité de rencontre avec les Français. Et tous les gestes qu'il faisait, déjeuner avec les éboueurs ou aller dîner dans des familles, c'était des gestes de bonne foi. C'était des gestes, il y mettait du cœur.
Votre dernière rencontre avec Valéry Giscard d'Estaing, à quand remonte-t-elle, François Bayrou ?
Oh, il y a pas très très longtemps, il y a, je dirais, 6 ou 8 mois, quelque chose comme ça. C'était très émouvant pour moi parce que c'est un homme que toute sa vie, j'ai regardé de bas en haut. Parce qu'il était plus grand que moi et parce que j'avais beaucoup de respect pour lui. Et là, c'était très étrange parce que sa taille avait beaucoup diminué. Et pour la première fois, Valéry Giscard d'Estaing était presque plus petit que moi. De cette taille immense, il restait un homme qui avait du mal à marcher et qui avait rapetissé. Et c'était infiniment émouvant. On avait envie de le protéger, de le rassurer, parce que je pense qu'il était... plein d'inquiétudes, puisqu'il avait connu des malheurs absolument épouvantables à la fin, et pour lesquels on a
perdu sa fille.
En tout cas,
notamment.
Moi, j'ai beaucoup, beaucoup pensé à lui, parce qu'il n'y a pas de malheur pire que de perdre un enfant.
Merci François Bayrou.
Merci à vous.
François Bayrou, entretien enregistré en fin de matinée dans les studios de France Inter. Valéry Giscard d'Estaing, nous en parlons avec vous et nos invités à 13h30. Nous serons avec Jean Lebrun, l'homme du vif de l'histoire dans le 13-14, avec la journaliste Sylvie-Pierre Brosselette, qui a très bien connu les années Giscard, et l'historien Jean-François Cirinelli, spécialiste d'histoire politique, histoire de la droite en particulier. J'attends vos témoignages au 01 45 24 7000. Pour Nicolas Sarkozy, l'après-Élysée est en partie empoisonné par les affaires. Dernier développement ce matin, après l'ex-président, son ancien bras droit Claude Guéant est à son tour mis en examen dans l'affaire d'un éventuel financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, mis en examen pour association de malfaiteurs. Et Nicolas Sarkozy fait face au tribunal correctionnel. Depuis le début de la semaine, l'ambiance est très tendue dans ce procès pour corruption à Paris. 3 prévenus, l'ancien président, son avocat Thierry Herzog et l'ancien magistrat à la Cour de cassation Gilbert Azibert. Les 3 sont accusés d'avoir conclu un pacte de corruption. L'ancien magistrat aidait Nicolas Sarkozy dans une autre affaire, affaire Bettencourt. En échange, il aurait eu le soutien du chef de l'État pour obtenir un poste à Monaco. C'est l'accusation. C'est le parquet national financier qui a mené l'enquête, plaçant Nicolas Sarkozy et son avocat sous écoute. Et depuis le début de la semaine, Corinne Audouin, à l'audience, c'est à couteau tiré.
Sans relâche, les avocats de la défense dénoncent les méthodes du parquet national financier dans cette affaire. Ils ont même tenté lundi de faire annuler toute la procédure en raison d'une enquête parallèle secrète menée pendant 6 ans par le PNF qui avait épluché les relevés téléphoniques de dizaines d'avocats, dont celle de Maître Lafont et Temim qui défendent Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog. La tension est donc permanente avec les deux procureurs du parquet national financier qui portent l'accusation. Ce dossier est horrible. Tous les moyens de preuve sont horribles, a tonné hier Hervé Temim, s'opposant à la lecture d'écoutes téléphoniques entre Gilbert Azibert et des journalistes. La défense conteste aussi le principe même des écoutes entre un avocat et son client au nom du secret professionnel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Thierry Herzog, aujourd'hui, ne répondra à aucune question sur le contenu des écoutes de la ligne Bismuth. L'avocat a fait citer comme témoin ses confrères, Henri Leclerc, qui vient de raccrocher la robe après 65 ans de plaidoirie et de combat pour les libertés, et le bâtonnier de Paris, Olivier Cousy.
La lutte contre le Covid en France, comment va se dérouler la campagne de vaccination? Le Premier ministre Jean Castex doit en dire plus ce soir à 18h30. Parallèlement, s'organise une campagne de dépistage massif dans 3 villes de France, Le Havre, Saint-Étienne et une ville du Nord. Nos vies restent confinées, toujours pas d'assouplissement pour les stations de ski et les manifestations continuent, elles sont quotidiennes. Aujourd'hui, entre autres, à Valmorel, La Plagne, le Grand Bornand, la Clusaz ou encore les Menuires. Hier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a mis la pression sur les assureurs. J'attends, dit-il, au moins un gel des primes d'assurance pour le secteur de l'hôtellerie, café, restauration. Faute de quoi, Bruno Le Maire dit qu'il soutiendra une demande du Sénat de contribution exceptionnelle des assureurs. Alors que répondent-ils? Eh bien, voici la réponse du numéro 1 mondial de l'assurance, le PDG d'AXA France, Jacques de Peretti.
Très clairement, cette position qui consiste à dire que les assureurs sont restés cachés pendant cette crise est complètement injuste et injustifiée et fait mal aux 200 000 collaborateurs et agents généraux qui, tous les jours, sur le terrain, sont auprès de leurs clients. Les assureurs, et notamment AXA, ont été les seuls contributeurs au fonds de solidarité que l'État a mis en place au printemps dernier. Nous avons apporté 400 millions d'euros à ce fonds de solidarité qui a été redistribué au profit des professionnels dont l'activité avait cessé. Et je voudrais juste dire que cette crise n'a pas rapporté d'argent aux assureurs, mais au contraire, leur a coûté plus de 2 milliards d'euros d'indemnisation supplémentaire. Nous sommes touchés par cette crise et nous apportons ce que nous pouvons apporter. Et en ce qui concerne la compagnie, eh bien, c'est 350 000 professionnels à qui nous avons apporté une aide financière depuis le début de cette crise. Alors, geler les primes pour ce secteur des hôtels, cafés, restaurants, ça représente bien sûr un effort supplémentaire que nous regardons aujourd'hui pour en mesurer la faisabilité.
Propos de Jacques de Peretti, le PDG d'AXA France, en réponse au coup de pression mis par Bruno Le Maire sur les assureurs. Le confinement toujours et le télétravail, et ce sondage de l'Institut IFOP auprès des salariés de Paris et Petite Couronne. Oui au télétravail, mais pas toute la semaine. En moyenne, les personnes interrogées aimeraient travailler 2 jours par semaine. Aux États-Unis, Donald Trump pense déjà à se représenter à la présidentielle. Depuis sa défaite, qu'il n'a toujours pas reconnue, le président sortant tweet, mais ses apparitions publiques sont rares. Écoutez ses propos lors d'une fête de Noël à la Maison Blanche. Pas de journaliste, mais une vidéo a été diffusée. Voici ce qu'il dit.
Nous avons remporté l'élection, mais cela ne leur a pas plu. Et beaucoup de choses se sont passées. Ils ont manipulé le scrutin. Nous avons fait un excellent travail. Tout le monde a fait un très bon travail. Regardez l'économie aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Regardez les vaccins qui arrivent. Je dirais, comme beaucoup l'ont dit, qu'il s'agit d'un miracle médical. Ce furent 4 années fantastiques. Nous essayons de faire 4 années supplémentaires. Sinon, je vous reverrai dans 4 ans.
Voilà les propos de Donald Trump, traduction Omar Waman, propos recueillis par Sébastien Paour. Aux États-Unis hier, le premier vol d'un Boeing 737 Max après 20 mois d'immobilisation consécutif à 2 crashs en 2018-2019, 50 minutes de vol entre Dallas et l'Oklahoma. American Airlines compte reprendre les vols commerciaux à partir de la fin du mois.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien, rien que des poulets fermiers élevés en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Météo France, journée perturbée à l'ouest.
Oui, aujourd'hui. On a de bonnes pluies qui progressent du nord-ouest jusqu'au nord de l'Aquitaine, au centre, au bassin parisien et à la frontière belge, avec des pluies, avec du vent jusqu'à 90 km à l'heure près des côtes. On a quelques gouttes aussi du massif central à la Lorraine, un petit peu de neige dès 900 mètres en montagne. C'est du soleil à l'est du Rhône. Et puis pour les températures, 4 à 8 degrés sur un grand quart nord-est, 9 à 14 de l'océan à la Méditerranée.
Élodie Calac, Météo France. Dans un instant, que reste-t-il des années ? Giscard, vos témoignages et nos invités.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Les occasions de prendre la route se sont faites rares. Préparez-vous à retrouver vos habitudes, vos passions et à rouler vers de nouvelles expériences à bord de votre Lexus hybride. Et pour faciliter ce retour, bénéficiez jusqu'à 5000 euros de remise sur les Lexus hybrides disponibles immédiatement. Rendez-vous dans votre centre Lexus ou sur Lexus.fr. Ouvert ce week-end. Offre aux particuliers non cumulable sur une sélection de véhicules en stock en concession. 5000 euros pour la commande d'une Lexus IS hybride neuve jusqu'au 31 décembre dans le réseau participant. Autres modèles et détails sur Lexus.fr.
Il est 13h30.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvic.
Que reste-t-il, que gardez-vous de la présidence et des années Giscard? Voilà pour notre thème jusqu'à 13h50 à peu près. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos interventions et pour dialoguer avec nos invités. Un premier appel tout de suite au standard de France Inter. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Que gardez-vous, vous, de Giscard d'Estaing? Vous l'avez rencontré très jeune, je crois.
Alors oui, je l'avais rencontré, j'avais une douzaine d'années à l'époque, et nous skions à la Plagne à l'époque. Et nous sommes tombés dessus complètement par hasard à la descente d'un glacier hors piste. Et on s'attendait pas du tout à le voir, il était accompagné d'un gendarme de montagne. Alors on a échangé quelques mots avec lui, il nous a dit c'est vous qui avez fait ces belles traces là-haut. Et puis on est descendu dans la vallée. Et dans la vallée, le problème c'est qu'on est arrivé après lui et il avait, on va dire, monopolisé les quelques petits restaurants qu'il y avait en basse altitude et on n'a pas pu se restaurer.
Bon.
Donc, enfin c'est un souvenir assez... À l'époque, j'avais 12 ans, oui. Et il incarnait cette espèce de magnificence, enfin bon bref, ce pouvoir fort à l'époque, et le respect qu'on lui devait, on va dire. On était des gamins qui avaient été, on va dire, un petit peu éduqués en sens, quoi, à l'époque. Hein. Voilà.
Merci.
Donc, c'est assez étonnant. Voilà,
merci pour ce témoignage. Bonjour Jean-François Cirinelli.
Bonjour.
Éminent spécialiste d'histoire politique, professeur émérite à Sciences Po. Entre autres travaux, vous avez dirigé les conclusions d'une grande journée d'études qui avait été consacrée en sa présence à Valérie Giscard d'Estaing. Qu'est-ce qu'il incarnait, tiens, pour reprendre le mot de notre auditeur, qu'est-ce qu'il incarnait, Giscard ?
Bah, c'est très compliqué, parce que qu'est-ce qu'il incarnait, virgule, à quel moment ?
Oui.
Alors, si c'est au moment où il est élu, en 1974, il incarne d'une certaine façon où il veut incarner la jeunesse, puisque oui. Par rapport aux deux présidents qui l'ont précédé, le général de Gaulle et Georges Pompidou, lui, à 48 ans, le général de Gaulle est parti du pouvoir à 79 ans, Georges Pompidou, à cause de sa maladie, donnait dans les dernières années l'image lasse d'un homme qui luttait contre la maladie, et lui, effectivement, apparaît dans la force de l'âge, en quelque sorte, et donc, il y a cette jeunesse. Sauf que il faut pas commettre de malentendu, la plupart des jeunes à l'époque n'ont pas forcément voté pour lui. Car il ne faut jamais oublier, si vous me demandiez d'ailleurs quel souvenir moi je gardais pour...
Ça allait venir, mais allez-y tout de suite.
Je garde le souvenir d'une élection extrêmement serrée. Oui. Car il ne faut jamais oublier qu'en face, depuis 72, donc depuis déjà 2 ans à l'époque, il y a la gauche unie. Et il faut jamais oublier que François Mitterrand est candidat unique de la gauche, à la différence de 81. Mmh. Il faut jamais oublier également qu'au premier tour, François Mitterrand fera plus de 43% des voix. Mmh. Donc, incontestablement, vous avez un président jeune face à un candidat jeune face à deux autres, Jacques Chaban-Delmas et François Mitterrand, qui le sont moins. Ils ont 10 ans de plus, en quelque sorte. Ils approchent de la soixantaine.
Mais pas forcément le président de la jeunesse.
Mais pas forcément le président de la jeunesse. Même s'il lui donnera ensuite le droit de vote à 18 ans.
Alors, pour ce premier tour de table, je salue également Sylvie-Pierre Brossolette. Bonjour.
Bonjour.
journaliste politique, vous avez connu la famille Giscard, vous avez travaillé au cabinet de Françoise Giroud, votre père était secrétaire général de l'Élysée sous Giscard. Vous, quel souvenir gardez-vous de Giscard? C'est le président qui a amélioré la condition féminine?
Oui, alors d'abord permettez-moi de saluer l'homme que j'ai connu très jeune, encore plus jeune que le monsieur que vous interviewiez, oui. L'ai connu vers 8-9 ans, et j'ai une pensée émue pour lui, pour sa famille, en particulier pour sa fille aînée Valériane, dont j'étais vraiment l'ami d'enfance.
Et sans révéler de détails intimes, Sylvie-Pierre Brossolette, quel souvenir vous gardez de l'homme ?
Bon, c'était un homme chaleureux en famille, toujours partant pour des activités. Il était souriant, intéressant, passionnant. Bon, je ne vais pas ajouter aux adjectifs que vous connaissez tous. Et je préfère effectivement, pour les quelques secondes ou minutes que vous me donnez, insister sur la modernité qu'il a incarnée sur le plan sociétal et en particulier pour le droit des femmes, parce que on sortait d'une période, le gaullisme puis le pompidolisme, qui n'avait rien lâché côté femmes, malgré Bobigny, malgré mai 68, on était en plein archaïsme. Et vraiment, ça a été une libération. L'avortement, la contraception, le divorce, il a fait un grand pas en avant. Et c'est pour toutes les femmes de l'époque, ça a été vraiment fondamental. Bien sûr, le mouvement féministe était là, le terrain était propice, mais il a su épouser son temps, su bousculer la droite et sa majorité qui était contre toutes ces mesures. Il en a payé d'ailleurs le prix parce qu'une partie de cette majorité de l'époque n'a pas voté pour lui 7 ans après, mais il a eu le mérite, et je pense que c'est une grande partie de son héritage, ça restera, c'est encore là, ce qu'il a fait, les pas en avant en matière des droits des femmes, nommé Françoise Giroud, et j'étais à son cabinet.
Alors allez-y, justement, racontez-nous de l'intérieur ces moments-là, ces années-là, dans quel climat tout ça se passait?
Ah, c'était un climat très compliqué. J'étais donc, François Giroud avait été nommé au gouvernement la première secrétaire d'État à la condition féminine, encore une idée de Giscard, et j'étais toute jeune sortie de Sciences Po à son cabinet. Mon père, comme vous l'avez rappelé, était à l'Élysée, et nous avions Jacques Chirac à Matignon, qui lui était beaucoup plus proche de sa majorité et de la droite, et il freinait. Et Giscard, lui, au contraire, poussait. Et François Giroud faisait tout ce qu'elle pouvait, et dans ma petite part d'activité, moi aussi, pour faire avancer des mesures, et pas simplement l'avortement, le divorce et la contraception. Il y a eu 100 mesures proposées par Françoise Giroud qui désenclavaient les femmes sur le plan de la retraite, de l'emploi, du salaire, de l'autonomie pour ouvrir un compte en banque. On n'imagine pas à quel point les femmes étaient considérées comme des mineures à l'époque, et qu'à côté des très grands droits qui ont été conquis, il y en a des plus mineurs, mais qui nous paraissent absolument aller de soi aujourd'hui. Donc il a été formidable, il a tenu bon, il a aidé Françoise Giroud, il a aidé les femmes, il en a nommé beaucoup ministres, ça a été un mouvement qui ne s'est plus arrêté depuis, et de ce point de vue-là, il laissera un héritage très important.
Jean Lebrun, vous nous avez rejoint un peu plus tôt que d'habitude, le vif de l'histoire, ce sera de parler de Giscard aujourd'hui. Vous, quel souvenir? Vous parlez d'une présidence relative.
Oui, parce que il a été élu de justesse de 500 000 voix, comme le disait Jean-François Sirinelli, et il héritait d'une tradition du monarque républicain, celle du général de Gaulle, mais il était un parlementaire. Il était parlementaire depuis 1956, grâce à l'héritage de son grand-père, Monsieur Bardoux, et puis au consentement des électeurs du Puy-de-Dôme aussi. Et il tenait à ce que le Parlement joue un rôle. D'ailleurs, il n'avait pas de choix. Il n'avait pas de majorité, vraiment. L'UDR de Jacques Chirac était forte, et Jacques Chirac l'avait convaincu, sans doute, de ne pas dissoudre. Et alors, il disait au Parlement, je fais avec ce que j'ai, pas nécessairement besoin d'une masse, enfin d'un bloc majoritaire. Il aurait presque repris l'idée d'Edgar Faure, la majorité d'idées. Et en même temps qu'il a privilégié le Parlement, un peu contraint et forcé, il a dit d'ailleurs au Sénat, vive le Sénat de la République, ce qui n'était pas précisément la position du général de Gaulle autrefois. Il a réformé le Conseil constitutionnel pour permettre à 60 parlementaires
de le saisir,
de faire la saisine de telle ou telle loi. c'est une présidence non pas absolue, on entendait l'auditeur parler d'un pouvoir très fort, oui, vu par un enfant de 10 ans, mais c'est une présidence relative, et il a même imaginé la présidence congrue. Quand, en 1978, il n'est pas sûr d'obtenir la majorité aux nouvelles élections législatives, il n'a jamais changé les dates des législatives, il fait un grand discours à Verdun-sur-le-Doubs, interminable, à la fin duquel il dit, si c'est comme ça, si je n'ai pas la majorité, je me retire à Rambouillet, je continuerai à assurer le rituel de la République, je ne démissionnerai pas, et éventuellement, je dissoudrai quand l'occasion se présentera. C'était un homme qui avait aussi le sens du timing et du moment où il fallait tirer. Et il aimait entendre dire autour de lui, vous êtes le meilleur tireur, monsieur le Président.
Jean-François Cirinelli, c'est le moment où le centre a été au pouvoir. Giscard est le dernier à avoir été ministre de De Gaulle. Ça n'était pas un gaulliste. Il avait une droite avec Chirac face à lui. Il a incarné cette ligne du centre. Elle reste encore aujourd'hui. C'est son héritage.
Oui, on va nuancer, vous avez raison, le centre, mais je préciserai le centre-droit. N'oubliez pas qu'à l'époque, au sein de la gauche unie, il y a le centre-gauche, le parti radical. Donc disons que le centre de gravité de Valéry Giscard d'Estaing et de ceux qui l'accompagnent, c'est le centre-droit. Ouais. Et là, vous avez tout à fait raison, c'est que son rêve, c'est effectivement, il l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, de gouverner au centre pour les deux tiers des Français. En 76, il publie un livre, Démocratie française, où il explique que la France est devenue une sorte de grand corps central, de classe moyenne, et que naturellement, il faut trouver un consensus, et inversement, l'appui de ces classes moyennes. C'est quelque chose qui l'a presque hanté tout au long de la fin de son septennat. À une remarque près, c'est que son septennat est bordé par les deux élections les plus bipolarisées de l'histoire de la Ve République. Et son thème, notamment des deux tiers de Français ou de la décrispation, est tout à fait décalé par rapport à la réalité politique de l'époque. Et c'est probablement un de ses drames politiques, si vous voulez.
Sylvie Pierre-Brossolette, revenons sur Giscard et la condition féminine. C'était aussi un grand séducteur. Il y a eu l'affaire avec cette journaliste allemande à la toute fin de sa vie. Avait-il personnellement une attitude ambiguë à l'égard des femmes ?
Moi, je n'ai jamais rien remarqué. Bon. J'en ai vu beaucoup d'hommes politiques. Mais c'était un séducteur. Oui, c'est connu comme le loup blanc, comme la plupart des hommes politiques. Vous savez, séduire à une poutre. Je les ai tous connus. Ils aiment être aimés, ils aiment même être préférés. C'est la marque des grands politiques. Voilà, mais il était tout à fait correct. Au contraire, il avait des très bonnes manières. Il était impeccable. Et pour en revenir aux femmes ministres qui l'ont entouré, je ne crois pas qu'elles aient manqué d'égard. Au contraire, il les a honorés, il les a inventés quelque part. Simone Veil est devenue ministre de la Santé et a donc fait passer l'IVG, mais aussi est devenue présidente du Parlement européen. François Giroud, après la condition féminine, a été ministre de la Culture. Il avait confiance dans les femmes, il les respectait peut-être beaucoup plus que la plupart des hommes politiques que l'on connaît ou que l'on a connus.
Lors du débat sur l'IVG, Sylvie Pierre-Brossolette, il est resté en retrait, il a laissé Simone Veil monter en première ligne. C'était une tactique politique pour faire passer cette réforme ?
La première tactique a consisté à ne pas donner à Françoise Giroud la responsabilité du débat au Parlement, parce qu'elle venait de la gauche, elle était terriblement détestée par la majorité de l'époque. Donc Françoise Giroud a fait le sacrifice, elle dit, écoutez, je veux bien devenir ministre, effectivement je ne défendrai pas ce projet de loi auquel je tiens, je demande à ce qu'il passe, Giscard a dit, je vous assure qu'il passera. Et donc c'est Simone Veil qui était mieux vue des rangs de la droite qui a fait passer ce texte et très bien. Et l'ambiance est effectivement très tendue parce que c'est la gauche qui a fini par voter le texte. Il a fallu passer des compromis, rogner sur quelques coins du projet de loi pour que quelques personnes de la majorité quand même, une partie de la majorité le vote. Mais l'essentiel a été acquis grâce à la gauche. Donc c'était un départ très tendu politiquement au Parlement pour Giscard. Et c'est vraiment un acte du coup très courageux de sa part parce que ça a laissé des cicatrices terribles.
Jean-François Cirinelli, on en parlait avec François Bayrou tout à l'heure, il y a une contradiction entre le Giscard qui veut regarder la France droit dans les yeux, se rapprocher des Français, et tout le parcours du personnage qui appartient à l'élite, à la grande bourgeoisie, et qui du coup fait peser un reproche ou un soupçon d'insincérité dans sa façon de se rapprocher des Français.
Oui, on va en parler.
Et qui est peut-être une clé de sa popularité ou de sa impopularité.
Mais en même temps, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Sylvie-Pierre Brossolette. Il y a une sincérité dans son combat de 74 qui est d'autant plus, j'allais dire, à admirer en tant qu'historien que... Sylvie-Pierre Brossolette le disait, ça laissera des cicatrices dans sa majorité. Et quand on voit l'écart très faible de sa défaite de 81, on peut se demander si ça n'a pas joué. Maintenant, je reviens à votre question. Effectivement, on voit même quand on regarde les photos du septennat qu'il y a une sorte de raidissement du personnage. Au début, c'est l'homme qui remonte les Champs-Élysées, ou qui les descend au moment donc de son investiture. Mais ensuite, très rapidement, on voit un homme qui s'isole. Et alors pourquoi ? C'est très compliqué. Vous le disiez d'abord, c'est un homme qui est ce qu'on aurait appelé à Byzance un porphyrogénète. Quelqu'un qui est né comme ça, entouré de pourpre, en quelque sorte. Il ne faut jamais oublier que certes, il est élu à 28 ans, mais il hérite du siège de son grand-père. Son arrière-grand-père était l'un des premiers ministres de l'instruction publique de la Troisième République. Donc, il y a ce côté porphyrogénète qui, probablement, avait du mal à entrer en résonance avec les Français, d'où l'image de Daniel Gilbert, d'où l'image de l'accordéon, c'est-à-dire cette recherche qui était peut-être sincère, mais qui, en même temps, pouvait faire sourire et faisait sourire dans la presse de gauche, cette image, donc, de quelqu'un qui était en quête du peuple, en quelque sorte. Et il y a, j'y reviens, ce raidissement dans la deuxième partie de son septennat. Mais il faut bien comprendre que, sinon on ne comprend pas ce septennat, que Valéry Giscard d'Estaing est le premier orphelin des Trente Glorieuses. C'est-à-dire que au moment même où il arrive au pouvoir, en 1974, le premier choc pétrolier a eu lieu à l'automne 1973, et par exemple, le chômage va doubler pendant l'année 1974. Par exemple, la croissance qui était de 5%, on parle d'un pays qui avait une croissance annuelle de 5%. Passe d'un seul coup à 1%. Vous avez une inflation qui passe à 15%. Donc voilà, un président qui est réformateur, qui l'est sincèrement, qui l'est dans la pratique, mais qui très rapidement se trouve pris, rattrapé par l'histoire mondiale, par la crise mondiale. Et ce raidissement, probablement, il s'explique aussi là-dessus.
Jean Lebrun, le parcours de Giscard, élu très jeune, ancien président, très jeune aussi et très longtemps. Il y a un rapport au temps qui est particulier dans la vie de Giscard.
Moi, je me souviens d'une horloge. Il a hérité du grand-père, non seulement le siège à l'Assemblée nationale, mais une horloge. Et il ne se déplaçait pas sans que cette horloge soit portée cérémonieusement par le secrétaire général adjoint de l'Élysée ou chef du protocole. Et on sentait qu'il risquait de perdre son temps s'il écoutait trop longtemps les autres, puisqu'il devançait ce que les autres allaient leur dire. Et pour rejoindre ce qu'expliquait Jean-François Sirinelli du raidissement du septennat, en 1977, il a l'idée d'inviter 25 élèves d'un lycée qui vont passer le bac et qui vont le questionner sur l'avenir. Et alors, voilà qu'au bout d'un moment, les lycéens lui parlent drogue, lui parlent centrale nucléaire, lui parlent pollution, il commence à s'agacer et il désigne l'horloge en disant « ça y est, l'émission est finie ». Et les lycéens ont eu l'impression de quelqu'un d'insensible, incapable d'émotion, un peu momifié face à eux. Puis je voulais vous raconter une autre anecdote sur le thème du temps. Il est à Clermont-Ferrand, place des Jaudes. Il regarde, c'est une chronique du Figaro qu'il a écrite sur ce sujet, la vitrine d'un antiquaire, et puis il voit un bronze avec le général Dezay, le numéro 2 de Bonaparte en Égypte, qui est mort prématurément. Et il se dit, est-ce que moi, je serai le numéro 2 dans la mémoire des Français? Est-ce qu'on ne va pas me préférer d'autres personnages? Et il médite sur le temps qui passe, persuadé qu'au fond, il ne laissera peut-être pas de souvenirs, qu'il ne laissera pas de traces à cause de ce septennat non renouvelé. Il n'avait pas une très grande confiance, il n'accordait pas une très grande importance à l'histoire. Et au tragique de l'histoire non plus, disait Raymond Aron, qui le critiquait beaucoup là-dessus.
Sylvie-Pierre Brossolette, on arrive déjà quasiment au terme de cette interview. L'Europe, peut-être un mot sur l'Europe, ça fait partie des grands apports de Giscard.
Oui, certainement, il avait cette foi européenne chevillée au corps. Il a pratiqué, si je puis dire, le couple franco-allemand de manière quasiment intime avec Helmut Schmidt. Il se voyait très fréquemment, souvent tête à tête, et ils ont fait avancer la cause européenne, notamment sur le plan monétaire. Si nous avons l'euro aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu l'écu et le serpent monétaire avant. C'est quelque chose à laquelle il croyait beaucoup, tout en tenant beaucoup à la France. Il y avait cette ambivalence chez Giscard. Il s'inscrivait dans l'histoire de France, y compris dans ses aspects monarchiques les plus lointains. Il adorait les livres sur Louis XI, on a beaucoup parlé de Louis XV, mais ça remontait à beaucoup plus loin. Donc il se sentait l'héritier de cette France-là, de tous les régimes qui l'ont précédé, mais il se voyait absolument constructeur de l'Europe, de cette puissance qui devait émerger, dans laquelle évidemment la France aurait joué un grand rôle, mais il était tout à fait prêt à le partager avec l'Allemagne. Et donc, de ce point de vue-là, il a aussi été un précurseur. On voit que depuis, ça ne fonctionne que quand ça fonctionne comme ça.
Merci Sylvie-Pierre Brossolette d'avoir été avec nous. Jean-François Cirinelli, un mot de conclusion. Je vois que vous avez pris beaucoup de notes au fil de ce qu'on se disait avec les auditeurs, avec Jean Lebrun, avec Sylvie-Pierre Brossolette.
Oui, incontestablement, l'Europe fait partie de, j'allais dire, de son logiciel pendant le septennat et ensuite.
Après.
Il faut pas oublier non plus que l'Europe est moins clivante à l'époque de son septennat, même si au sein de sa majorité, Jacques Chirac fera l'appel de Cochin, qu'il suspectera donc les pro-européens d'être...
Le parti de l'étranger.
Le parti de l'étranger, tout à fait. Mais globalement, l'Europe n'est pas aussi clivante à l'époque qu'elle l'est devenue par la suite. Ça n'enlève rien à son mérite et à cette identité européenne.
Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci aux auditeurs qui nous ont joints. Allez, on peut terminer sur un clin d'œil de Sophie. Pour moi, VGE, c'est les œufs brouillés, car mes parents disaient qu'on mangeait des œufs VGE. Il paraît que c'était son plat préféré. Vous confirmez, Jean-François Cirinelli?
Oui, et surtout, il y a eu un film, parce qu'il recevait chez lui, il allait chez les Français, et de fait, il faisait savoir qu'il aimait les œufs brouillés. Il y a eu un film à l'époque qui s'appelait Les œufs brouillés de Joël Santoni, je crois.
13h50, les années Giscard en chanson pour finir. C'est avec Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Bruno.
On revient donc sur les années Giscard côté musique en commençant par l'intéressé lui-même qui en jouait régulièrement de la musique.
Eh bien oui, vous venez d'en parler, jouer de l'accordéon, comme dans cette interview accordée à Daniel Gilbert en 1970. Il n'était donc pas encore président, non, mais ministre de l'économie et des finances.
Nous avions tout prévu, nous avions pris votre accordéon, qui est d'ailleurs un petit accordéon.
Oui, c'est un petit accordéon, il y a des variétés, vous voyez, ça dépend de ce qui est du côté droit. Il y a ce qu'on appelle les accordéons chromatiques, et puis les accordéons contre un clavier, et ça c'est un accordéon à clavier.
Je ne sais pas si vous reconnaissez l'air de la chanson qu'était en train de jouer Valéry Giscard d'Estaing.
Ah mais alors, pas du tout.
Eh bien c'est « J'irai revoir ma Normandie ».
D'accord.
Oui, Daniel Gilbert, elle avait très bien reconnu. Et ensuite, la présentatrice vedette de l'époque l'avait soutenue pour l'élection présidentielle en 1974. Des chanteurs également, d'ailleurs, Johnny Hallyday, Mireille Mathieu, Sheila, Dany, Chantal Goya ou encore Charles Aznavour qui avait même chanté lors d'un de ses meetings.
Mais l'ennui les emporte. Mais on ne le peut plus.
Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs. Adieu rêve perdu.
Charles Aznavour a cessé de soutenir Valéry Giscard d'Estaing après un médiatique et très sévère contrôle fiscal. Et puis quelques chansons ont été écrites sur l'ancien président, certaines pour se moquer, comme le Giscardéon, interprété par Yves Lecoq et Sophie Darel.
Mais tu joueras l'accordéon, tu joues si bien l'accordéon, quand tu es à l'accordéon, ça met la France au pamoison.
Puis il y a eu également plusieurs 45 tours totalement à la gloire de Valéry Giscard d'Estaing, des chansons de bienvenue lors de ses déplacements à travers la planète, une Begin par exemple lors d'un voyage aux Antilles.
Bienvenue président, Giscard débarqué aux Antilles.
Bienvenue président,
Valéry président.
chanter. Bikina jusqu'à l'Esther en chanson pleine en cœur. Ne soyez pas en retard, oui, jusqu'à là-bas.
Allez, autre chanson que vous avez sélectionnée, Frédéric, cette fois lors d'un voyage à La Réunion.
Et puis le président a également été accueilli au Gabon.
Le président de tous les Français, l'ami de Bongo.
Chanteur s'est pour sa part intéressé à l'un des passe-temps de Valéry Giscard d'Estaing, en l'occurrence la chasse. C'est Gilbert Lafaye avec son très beau Le Président et l'éléphant. C'était en 1977.
J'ai dit à mes enfants, mes bébés éléphants, regardez l'homme blanc, ça c'est un président. C'est celui qui sourit et qui tient un fusil. Il dirige un pays où il n'y a pas d'éléphant. Qu'est-ce qu'ils ont donc là-bas? Ils ont pas d'éléphant.
Enfin, Bruno, bien plus récent, un titre du producteur parisien d'Ombrance, texte minimaliste, paru l'an dernier, cette fois c'est de la chanson pour danser. Voilà, je vous l'avais dit, Bruno, texte minimaliste.
Merci Frédéric Pommier pour cette évocation des années Giscard en musique, la disparition de Valéry Giscard d'Estaing. On y revient dans nos journaux ce soir à 18 et 19h. Un peu plus tard que d'habitude, notre feuilleton, une semaine dans leur vie, jusqu'à demain, dans une maison de retraite de Saint-Malo. Hélène Chevalier suit la directrice Valérie Mercier. Valérie peine à recruter en particulier. Elle nous parle aujourd'hui des salariés et des employés. Pour le moment, la prime mensuelle obtenue dans le cadre du Ségur de la Santé n'est versée qu'aux salariés des EHPAD publics, pas les EHPAD privés à but non lucratif comme le sien. En pleine conversation justement sur le sujet, coup de fil de Sylvie Dupont, directrice des EHPAD de l'Armée du Salut, car la maison de retraite où nous sommes dépend de l'Armée du Salut. Elle venait prendre des nouvelles, la chef de Valérie, de son établissement.
Salut Sylvie.
Coucou Valérie.
J'ai mis le haut-parleur parce que je suis avec Hélène de France Inter, qui est dans mon bureau. Comme qu'on n'a rien à cacher.
Bonjour. Voilà, ça y est. On y est.
Bah écoute, il n'y a pas de raison. Hein.
Ouais.
Pour l'instant, ça s'arrête à deux. Donc, pas de résidence. Donc les salariés ont été comme d'habitude super, hein. Ils se sont tous proposés de revenir, de faire des heures, de... enfin voilà.
Bah écoute, sur la motte c'est plutôt stable aussi, donc c'est plutôt bien. Non, c'est surtout sur Saint-Étienne où c'est.
Mais t'as vu Saint-Étienne, c'est l'enfer. Hein. J'ai l'impression qu'ils prennent cher.
Dans la résidence, il a eu 12 décès en 10 jours.
Oh putain la vache, quelle violence.
Ouais, c'est une sacrée période. Mm. Bon bah écoute. Parle à Hélène aussi des salaires. Hein.
Ah bah, de toute façon, moi, honnêtement, hein, si en janvier je donne pas la prime aux salariés, moi j'ose plus la regarder en face. Hein.
Moi, ça va être compliqué. Hein. Mon collègue. Et donc, ça fait 300 euros puisqu'il y a la prime grand âge plus les 180.
Ouais, j'en ai parlé à Hélène de la prime grand âge. Ouais. Hein.
Vous pouvez expliquer ce que c'est que la prime grand âge, justement.
C'est une prime de 90 euros qui a été donnée aux salariés qui bossent en EHPAD public pour travailler avec des personnes âgées. Mais nous. Ils sont un peu âgés chez nous aussi, quand même. Ah, nous, on ne l'a pas.
Non, toi, ils sont très jeunes.
Moi, donc, on arrive là à 300 euros d'écart entre le public et le privé. Ouais.
Par mois.
Oui, pour un même travail. Voilà. Donc, on a beau être gentil, on ne va attirer personne. Bon, ma petite Sylvie, merci d'avoir appelé.
Bon courage à toi. Et puis, écoute,
je tiens au courant.
Ça fait des années hein, qu'on dit attention, il faut vraiment augmenter les salaires. C'est un métier merveilleux, mais avec des conditions de travail tellement difficiles, des horaires atypiques, un travail un week-end sur deux, aucun avantage, que bah, les jeunes ils préfèrent faire autre chose, hein, c'est tout. Hein. C'est une aide-soignante hein, chez nous, elle a dans le meilleur des cas 1300, 1350 euros avec un week-end sur deux. Hein. Bon, l'ancienneté c'est 1% par an. Si en plus vous avez des enfants en bas âge, il faut les faire garder, donc vous vous retrouvez avec des horaires de nuit. Puis voilà, donc les salariés, ils s'essoufflent, ils changent de métier. Ça fait...
Comment vous analysez ça?
Alors moi, je me trompe peut-être, mais je pense que c'est plutôt historique. Et qu'à la base, tous ces métiers-là, c'était des métiers de bénévolat et de sœurs. Moi, le premier poste que j'ai eu il y a pratiquement 40 ans, les sœurs étaient pas rémunérées, elles travaillaient pour la congrégation, quoi. Hein. Donc après, ça s'est professionnalisé, mais c'est resté un peu en l'état. Et puis, il faut pas se leurrer, hein, c'est un métier de femme. Hein. On est quand même ici 90% de femmes. Hein. On fait pas de bruit, peu sont syndiqués, donc on n'est pas défendu non plus. Donc on bosse.
Alors, Esther, vous m'avez pas mis à travailler. Esther, je ne vais pas vous faire bosser, vous êtes en repos.
Ça va?
Non, mais je ne vais pas vous faire bosser 7 jours. Vous avez besoin de faire des trucs en plus.
Là, ils sont fatigués.
Ils sont très fatigués, et moralement, et physiquement. Quoi. Ça fait 9 mois qu'on a ce masque toute la journée sur le visage. C'est pour ça que je ne supporte plus de voir des gens qui, à l'extérieur, ne font pas attention. On a eu des congés cet été, mais on n'a pas décroché, on ne s'est pas reposé. Et puis, enfin, ce qui se passe en ce moment, c'est anxiogène. Bah, on fait boulot dodo, quoi, hein. On voit personne, pour protéger toujours les résidents, parce qu'il faut être raisonnable. Donc en fait, on ramène les valises à la maison le soir, on les défait à peine, et puis on repart avec le matin. Et puis c'est un cercle, on a l'impression que c'est un cercle sans fin, et qu'on n'en verra pas le bout, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, quoi. C'est ça qui est très difficile à gérer. Et puis en tant que directeur, bah, vous portez toute l'équipe, donc il faut faire comme si vous y alliez très bien tout le temps. Ce qui est loin d'être le cas, mais vous n'avez pas le droit de le montrer, quoi. Et je pense que c'est ça qui épuise beaucoup les directeurs d'EHPAD. On est complètement épuisés moralement et physiquement.
Une semaine dans leur vie, feuilleton signé Hélène Chevalier. Dernier épisode demain, bientôt 14h, et ensuite ce sera la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le programme aujourd'hui?
Je reçois le paléanthropologue Yves Coppens pour parler bipédie.
À tout de suite.